Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Je vote la mort. Le scrutin est dépouillé. Le roi est condamné à une voix de majorité. Si Philippe Égalité s'était abstenu, Louis XVI eût été sauvé. Alors, qui est donc ce Philippe Égalité? Ben, avant de parler du Philippe Égalité, je vais vous parler du papa. Le papa, c'est le duc Louis-Philippe d'Orléans dit le Gros, parce qu'il l'était vraiment. Hein. C'est le petit-fils du régent qui gouverne en attendant la majorité de Louis XV. Il n'a Dieu que pour Madame Henriette, la deuxième fille de Louis XV. Elle l'aime aussi, mais lorsque Louis-Philippe demande au roi la main de sa fille, eh ben, ce dernier refuse. Alors, on cherche à qui le marier. Vous savez bien qu'à l'époque, on ne demandait pas l'avis des princes, on les mariait d'office. Et l'autoritaire veuve du régent, elle prend les choses en main. Elle est la fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. Alors elle rend visite à sa cousine, la princesse de Conti. C'est la fille du prince de Condé. Condé et Conti sont princes de Sansus, hein. Mais ils sont assez loin du trône finalement. Alors, un mariage avec le prince héritier de la maison d'Orléans rapprocherait les Conti de la branche aînée. La princesse de Conti, elle a une fille qui s'appelle Louise Henriette et qui vient juste de quitter le couvent. Alors, cette Louise Henriette, eh bien, elle est jolie, elle a des cheveux châtain dorés, des grands yeux noirs, une peau de blonde, si bien que la duchesse d'Orléans est tout à fait conquise. Alors, le mariage est célébré le 17 décembre 1743. Et Versailles est complètement ahuri parce que ces deux-là s'aiment. Et aimer son mari à ce point, à l'époque, ça semble tout à fait anormal. Un fils leur naît, Philippe, le futur Philippe Égalité, le 13 avril 1747, et puis une fille qu'on prénomme Bathilde. Alors Philippe, il reçoit l'éducation stupide qui est donnée à tous les princes, parce qu'on leur inculque la politesse, des manières agréables et de bon ton. Ben puis c'est à peu près tout. Alors le gouverneur, c'est le comte de Pont-Saint-Maurice, un monsieur guindé, tout à fait épouvantable d'orgueil, et on peut dire, je ne vais pas être gentille, mais on peut dire que c'était un imbécile. Ce dernier demande qu'on donne quelques leçons quand même de mathématiques à Philippe, dans les moments vides de la journée, mais surtout, surtout, sans aucune sévérité. Alors, oui, aucune sévérité envers un élève finalement qui est tout à fait indolent, capricieux, et alors les résultats, ben, vous les devinez. Hein. C'est un élève tout à fait détestable. À 18 ans, c'est un petit personnage nonchalant, médiocre, et ben malgré ça, il siège quand même au Parlement et il est colonel de régiment d'infanterie de Chartres. Il monte fort bien à cheval, il danse à ravir, il chasse avec Louis XV, il semble complètement indifférent aux femmes. Alors on se demande s'il n'aurait pas les mêmes goûts que son trisaïeul, le frère de Louis XIV. Le papa prend les choses en main, il s'adresse à un danseur, à une danseuse de l'opéra, Rosalie Duté, qui a 15 ans. Et elle donne des cours à Philippe, qui trouve ça que c'est bien plus intéressant que les cours de mathématiques. Alors il rattrape le temps perdu. Afin de l'assagir un peu, le duc, son père, décide de le marier. Alors on cherche. On cherche parmi les princesses allemandes, Puis l'abbé de Breteuil propose la princesse Louise Marie Adélaïde, fille du duc de Bourbon-Penthièvre. Alors le duc d'Orléans pousse les hauts cris. « Comment ? Mais elle est la petite-fille du comte de Toulouse, fils de Louis XIV et de madame de Montespan. Alors prendre pour femme la descendante d'un bâtard, même prince légitimé, c'est une mésalliance absolument terrible. » Mais l'abbé de Breteuil donne des arguments convaincants. Le duc de Penthièvre, le papa, est grand amiral de France, gouverneur de Bretagne et surtout, c'est l'homme le plus riche d'Europe. Et ses revenus vont s'accroître parce qu'il est l'unique héritier du petit-fils de Louis XIV, le bâtard légitimé, là. Alors, la fille, elle sera l'unique héritière parce qu'il y avait un frère, mais le frère, il est mal en point et d'ailleurs, il va mourir. Donc, le papa, il revient à plus de réalisme et il se dit que finalement, ça n'est pas si mal. Il demande au ministre Choiseul de présenter le projet au duc de Penthièvre. Ce duc de Penthièvre, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire auprès des pauvres gens. Il dépense une très grande partie de ses revenus à faire le bien. Il crée des ateliers de bienfaisance, il bâtit des asiles, il fonde des hôpitaux. Son seul luxe personnel consiste à collectionner les montres. Il possède un nombre de châteaux absolument incroyable. Alors, je vais vous en citer quelques-uns seulement. Hein. Rambouillet, Dreux, Châteauneuf, Annette. Quand Monsieur de Choiseul vient présenter le projet au duc de Penthièvre, celui-ci fait la moue. Parce que voir sa fille épouser un jeune coq dont les aventures font scandale, ça ne lui plaît pas du tout. Il est vrai qu'à l'époque, trouver un prince vertueux, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, fait curieux, à l'époque, le duc de Penthièvre prend la vie de sa fille. Et en 1768, Marie Adélaïde, qui a 15 ans, qui est fraîche, timide, modeste, eh bien, elle trouve que Philippe n'est pas si mal que ça. Alors le mariage se décide. Ah oui, mais il faut quand même l'autorisation du roi. Et que dit le roi ? Il dit non. Parce que Louis XIV voit que s'il échoit une telle fortune à la branche d'Orléans, elle deviendra plus riche que la branche aînée et ça pourrait peut-être bien lui donner des idées. Le roi refuse longtemps, mais il finit par céder parce que Monsieur de Penthièvre, c'est un ami de jeunesse. Cependant, Louis XV lui dit qu'il a tort, que le duc... Alors, il s'appelle duc de Chartres, en attendant que le papa meure et qu'il devienne duc d'Orléans. Un mauvais caractère, qu'il a de mauvaises habitudes et que sa fille ne sera pas heureuse. Bon, le mariage se fait quand même. Il est annoncé par le roi le 1er janvier 1769. Il sera célébré à Versailles le 5 avril suivant en présence du roi. Le surlendemain du mariage, le jeune ménage regagne Paris. Le 22, on le voit au théâtre. Et les époux se retirent après au château de Saint-Cloud. Et puis après ça, eh ben ils vont de château en château, puisqu'il y en a plein. On chasse, il y a bal. Septembre, le duc de Chartres va visiter ses troupes qui sont rassemblées en Lorraine et en Alsace. Et pour faire plaisir aux Orléans, le ministre Choiseul a prescrit que les honneurs pouvaient être outrepassés dans les choses qui paraîtront plaire au duc de Chartres. Donc, quand il se présente au duc de Chartres, on lui fait les honneurs, comme quelqu'un de la famille du roi. Gouverneurs, généraux, administrateurs, bourgmestres s'en donnent à cœur joie, d'autant plus que les frais de ce déplacement sont à la charge du roi. Revenu de son armée, le duc de Chartres va chez sa femme, au Rincy. Marie-Adélaïde va y subir l'inoculation d'une maladie qui, à l'époque, pouvait faire mourir la petite vérole. Et alors, l'inoculation est considérée à l'époque comme périlleuse, mais le duc d'Orléans pense que c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, il a fait vacciner tous ses enfants. Tout se déroule bien, et la jeune mariée va passer sa quarantaine chez son père à Rambouillet. Au début de leur mariage, le duc de Chartres est fidèle, mais ça ne dure pas longtemps. Il reprend sa vie de célibataire. Et nous connaissons tous les faits et gestes du duc, par les rapports d'un policier qui s'appelait Marais et rapports qui étaient transmis au roi. Et voilà que le duc de Chartres se mêle de politique. Lorsque le Parlement se révolte contre l'autorisation du roi, je vous rappelle que le Parlement, ce n'est pas du tout le Parlement actuel, hein, c'est une cour de justice. Donc les parlementaires demandent au duc de remplir le devoir qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire faire parvenir au roi les plaintes du peuple. Humilié d'être considéré tout juste bon à donner sa chemise au roi, les Orléans tiennent à montrer au souverain qu'ils sont une puissance avec laquelle le pouvoir royal doit compter. Donc, ils se mettent à soutenir les parlementaires. Et une nuit, sur le mur du palais royal, le palais royal, c'est l'endroit où habite le duc d'Orléans, on a apposé un grand placard sur lequel on peut lire « Montrez-vous, grand prince, nous vous mettrons la couronne sur la tête. » Donc, il y a des gens qui verraient bien les Orléans à la place de Louis XV. Alors le gros duc n'a pas du tout cette ambition, mais le fils Philippe, que la passion politique tourmente de plus en plus, estime que le souhait anonyme mérite un examen quand même. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. un groupe qui trouve que puisque ce monsieur s'intéresse à la politique, ça serait bien de le soutenir. Ce sont des francs-maçons qui commencent donc à le regarder. La franc-maçonnerie est à la mode à l'époque. Le comte de Clermont, à la tête, vient de mourir. Pourquoi est-ce qu'on ne le remplacerait pas par le duc de Chartres ? Eh bien, c'est fait. Le duc de Chartres prend donc la tête des francs-maçons. Il commence alors à penser à une fronde. Et vraiment pas pour l'instant un pouvoir royal, mais se remuer un petit peu. L'abbé Théret, qui gère à ce moment-là les finances, lui diminue alors ses revenus, parce qu'il se dit, mince, si ce monsieur, qui est déjà plein d'argent à cause de sa femme, a encore des revenus supplémentaires, voilà qu'il va avoir des idées concernant la royauté. Alors le duc de Chartres redouble de violence. Pendant ce temps, chez lui, sa femme se prend d'amitié pour la jolie madame de Genlis. Cette dernière, elle s'est lancée dans toutes sortes d'études, et elle y a entraîné Marie-Adélaïde. Et Philippe, qui est plutôt superficiel, commence à être attiré par la jeune femme. Cette dernière, avec Madame de Boufflers, anime les soirées chez les Orléans. Alors Philippe sort de moins en moins, il trouve que les soirées sont bien agréables. C'est le policier Marais qui est content, parce qu'il n'a pas à courir derrière le duc. Il commence donc, le duc, à faire la cour à Madame de Genlis. Eh oui, parce que pour la première fois, le duc de Chartres est amoureux. La mode est aux os de forge qui sont censés rendre mère. La duchesse de Chartres, qui n'a toujours pas d'enfant, s'y rend en compagnie de Madame de Blot et de Madame de Genlis. Et Philippe arrive. Et pendant qu'il s'occupe avec Madame de Genlis, sa femme, elle, avale force verre d'eau et elle fait le bien comme son papa. Elle va jusqu'à faire construire une maison pour les familles nécessiteuses. Elle promet d'envoyer chaque année la famille qui est donc, on peut dire, non seulement parrainée par Marie-Adélaïde, mais Marie-Adélaïde leur donne une rente à vie. Donc la famille, elle promet d'envoyer chaque année un mouton enrubanné à la bienfaitrice. Eh bien la famille, elle va tenir sa parole jusqu'à la Révolution. Alors on est aux eaux, bon, et maintenant les eaux sont terminées, on rentre à la maison. La duchesse souffre des dents, Madame de Genlis aussi, ce qui donne lieu à des billets d'amour de la part de Philippe. Cependant, il fréquente suffisamment la couche de sa femme pour que celle-ci soit enceinte. Alors Marie-Adélaïde s'entoure de tous les soins possibles, elle geint, elle pleurniche, comme souvent d'ailleurs, si bien que Philippe fuit le palais royal. Il est vrai que, en plus de cette disposition à toujours geindre, dès que Marie-Adélaïde ouvre la bouche, ben c'est pour dire un peu une bêtise. Et voilà que le duc se prend de passion pour la prestidigitation. Il prend même des leçons. Alors, et ses amours avec Madame de Genlis ? Ah ben, elles sont mortes. Alors, cette dernière en prend tout à fait son parti, et plus tard, on peut dire qu'il restera une amitié solide entre elle et Philippe. Que fait Philippe ? Il voyage beaucoup. Il se rend en Belgique, chez le prince de Ligne. C'est lui qui disait « Tout homme a deux pays, le sien et la France ». Ce grand seigneur donne des fêtes pour Philippe. Il est lui-même franc-maçon et il est heureux de recevoir le grand maître. Le 8 août, nous sommes en 1773, Philippe rentre au palais royal. Le mercredi 6 octobre, à 3h30 du matin, Marie-Adélaïde met au monde un prince qui est titré duc de Valois. Alors la joie est générale, le soir on tire un feu d'artifice et selon l'usage, le 9e jour des couches, la duchesse remercie par lettre le roi de ses félicitations et le lendemain, on chante un Te Deum en l'église Saint-Eustache. Aussitôt, Marie-Adélaïde rétablie les villes d'Orléans, de Chartres, de Crépy-en-Valois, envoient des députés à Paris. Ils sont reçus à dîner par le duc et la duchesse de Chartres. Toutes les villes se trouvant dans les états du duc d'Orléans célèbrent la naissance par des Te Deum et des feux d'artifice. À Orléans, tous les enfants qui sont nés entre le 5 et le 14 octobre reçoivent une layette somptueuse. 10 mai 1774, Louis XV meurt. Le soir même, le carrosse qui conduit le corps à Versailles, depuis Versailles, après ça, jusqu'à Saint-Denis, eh bien, le corps est hué par les passants. Quelques jours après la mort du roi, le duc d'Orléans et son fils font savoir à Louis XVI qu'ils n'assisteront pas au service funèbre car ils ne reconnaissent pas le nouveau Parlement. Alors Louis XVI, bien embarrassé, se demande s'il doit garder les nouveaux magistrats ou s'il faut rappeler les anciens. Après 2 jours de réflexion, le roi dit aux Orléans de ne plus paraître à la cour puisqu'il ne veut pas être présent au service funèbre du grand-père. Oui, je rappelle que Louis XVI était le petit-fils de Louis XV. La capitale, alors, acclame les Orléans. Louis XVI est absolument ennuyé et alors il fait un pas en arrière comme beaucoup de fois et il renvoie le ministre Maupeou. Alors ce dernier s'écrie « Moi parti, il est foutu ». Le roi rappelle les anciens parlementaires, mais il y met une condition. Créer à côté une cour plénière de princes, de pairs, de grands officiers de la couronne. Alors Philippe s'écrie que cela va complètement dénaturer le Parlement de Paris. Et le Parlement de Paris proteste. Le duc de Chartres, c'est-à-dire Philippe, il prend le parti du Parlement. Et que fait le roi? Eh bien, il recule. Et Philippe est follement acclamé par Paris.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de Philippe Égalité, le fils du duc d'Orléans. Le roi, finalement, a le dernier mot puisqu'il refuse que le duc parte en Bretagne avec son beau-père. Alors le fossé se creuse entre le roi et Philippe. Et oui, parce que ce dernier est tout à fait antipathique au roi. Sans doute à la base un peu de jalousie, parce que le futur Égalité, il est à l'aise partout, alors que Louis XVI ne l'est pas du tout. Le duc possède de l'esprit. Louis XVI lance des boutades, quelquefois qui sont vraiment un peu lourdes. Et heureusement pour Philippe, la reine l'aime bien. Pour l'instant, j'ajoute. Le 6 février 1778, Louis XVI reconnaît les États-Unis. La guerre alors avec l'Angleterre s'annonce. Philippe prend la tête d'une division et part pour Brest. Le mercredi 8 juillet, on part contre les Anglais. Trois navires quittent Brest. Le Bretagne est commandé par le duc d'Orvilliers. Duchafaud est à la tête de l'avant-garde et Philippe est à la tête de l'arrière-garde. Et durant trois jours, on n'avance pas beaucoup. Peu de vent, une mer qui est extrêmement grosse. Dans la nuit du 23 au 24, enfin, le vent se lève et soudain, on aperçoit l'escadre anglaise. Alors, ordre de position de combat, pendant 4 jours, on s'observe. Le 27 juillet, la bataille s'engage et soudain, d'Orvilliers s'aperçoit que l'arrière-garde anglaise est tout à fait en désordre. Alors, il donne l'ordre à Philippe de s'engouffrer dans la brèche pour séparer le centre anglais de son arrière-garde et donc de couper la ligne ennemie et de coincer l'amiral Keppel. Alors les témoins divergent sur les événements. En tout cas, un fait est certain, Philippe n'a pas obéi, il ne bouge pas. Si bien que l'amiral anglais Keppel se dérobe facilement, la bataille cesse. L'avantage reste au roi de France, mais on ne peut pas dire que ce soit une vraie victoire. D'ailleurs, dans une lettre qui est adressée au ministre Vergennes, le chef d'Orvilliers dit qu'il est bien malheureux que les vaisseaux de l'escadre de M. le duc de Chartres n'aient pas aperçu ou pas tout à fait compris le signal qu'il avait donné. Il est gentil, hein? L'arrière-garde ennemie aurait été coupée, dit-il, et nous aurions très certainement conduit à Brest des signes non équivoques de victoire. Philippe rentre à Versailles, lui il fait un récit tout à fait arrangé de la bataille, où il se donne évidemment le beau rôle. Le roi, tout heureux, fait chanter un tédéum, et les Parisiens l'acclament. L'acclament qui ? Philippe, bien sûr. Et Philippe, il repart pour Brest. La flotte, pendant un mois, est en pleine brume, ne rentre contre pas d'ennemis. Le duc demande à d'Orvilliers alors de regagner la rade. Et c'est fait. Et aussitôt, Philippe part pour Paris. Alors cette fois, il n'y a pas de tédéum, il n'y a pas d'enthousiasme. On traite ouvertement le duc de poltron. Il ne craint pas d'écrire à Louis XVI en sollicitant une récompense. Pourquoi ne pas créer pour lui, par exemple, la place de colonel général des troupes légères ? Il l'obtient. Ça fait sourire. Et Chartres est surnommé le colonel général des têtes légères. En butte au sarcasme des courtisans, peu aimé du roi, Philippe décide de voyager. Entre deux randonnées, il s'occupe de ses affaires qui d'ailleurs sont assez mal en point, parce que le ménage dépense beaucoup. Mais il y a les parents qui aident, bien sûr. Le duc d'Orléans offre le palais royal à son fils. Ce dernier a un projet. Encadrer les jardins du palais royal par une suite de maisons destinées à des particuliers. Donc, on ouvrira des boutiques avec une galerie couverte. Eh bien, c'est le palais royal tel que nous le connaissons maintenant. Le roi est furieux. Il dit « on transforme une demeure en palais marchand ». Il n'empêche, au bout de 3 ans de travaux, le nouveau palais royal est ouvert au public. C'est à cette époque que l'on voit les balbutiements de l'aéronautique. Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande s'envolent de la Muette le 21 octobre 1783. Philippe est au départ et suit le ballon à cheval. Le duc de Chartres s'enthousiasme. Il veut prouver à tous qu'il est courageux et qu'il efface le souvenir d'Ouessant. Alors il fait construire un ballon. Le départ est fixé au 3 juillet. Le grand jour arrive, il y a foule dans le parc de Saint-Cloud, d'où Philippe et les frères Robert doivent s'envoler. Le ballon monte comme une flèche. Le vent le secoue. Les aéronautes agrippés au bastingage ont du mal à ne pas être précipités hors de la machine. On est à plus de 3000 mètres, il fait froid. Il n'y a rien à faire, demande Philippe. Si, percez le ballon. C'est ce que fait Philippe. Alors le ballon descend à une allure vertigineuse. On rase la surface d'un étang et on atterrit dans une prairie. Le voyage a duré 48 minutes. Et où est-ce qu'on est ? Eh bien, on a atterri dans le parc de Meudon. Et bien évidemment, à Versailles, c'est une tempête de rire. Vouloir atteindre Orléans et atterrir à moins d'une lieue du point de départ. On ne croit pas au danger réel couru par le duc de Chartres. On ose prétendre que si le ballon est revenu, c'est à cause de la peur de Philippe. Et on rappelle bien évidemment Ouessant. Alors Chartres est ulcéré. Cette injustice flagrante influe sur son caractère. Désormais, il prend le parti de se moquer de tout. L'injustice l'a cuirassé. Lorsqu'on lui rapporte des écrits satiriques qu'il concerne, il répond « Je m'en fous ». Après le duc de Valois, le couple Chartres a eu 2 autres fils. Le duc de Montpensier, né le 3 juillet 1775, et le comte de Beaujolais, né le 7 octobre 1779. Entre les deux garçons sont nées des jumelles, mesdemoiselles d'Orléans et de Chartres. En ce 4 janvier 1782, le duc bavarde avec madame de Genlis, qui est restée une très bonne amie. Il veut son avis sur l'éducation de ses garçons. Alors elle est déjà gouvernante des deux petites princesses. Et elle prend son rôle très au sérieux. Et elle propose finalement plusieurs messieurs pour s'occuper des garçons. Et à chaque fois, Philippe n'en veut pas. Alors, elle finit par se proposer. Silence. En un éclair, Philippe entrevoit l'ahurissement et la suffocation de la cour de Versailles. Finalement, le plaisir de scandaliser le décide. Et il dit, ben pourquoi pas ? Et voilà Madame de Genlis, gouverneur des fils du duc de Chartres. C'est bien la première fois que ça arrive. D'ailleurs, le duc n'en a pas référé à la mère. Maintenant, il faut quand même en référer au roi. Et Louis XVI, il est tout heureux de voir son cousin s'enferrer dans le ridicule. Et bien sûr, il dit « c'est oui, Madame de Genlis peut être gouverneur des enfants ». La nouvelle déclenche aussitôt une explosion de rire. Ben, il faut reconnaître cependant que le choix de Philippe est heureux, parce que le système éducatif de Madame de Genlis a du bon. Le futur roi Louis-Philippe le reconnaît. Il faudrait plusieurs volumes pour raconter les inventions pédagogiques de Madame de Genlis. Ben, je vais vous en donner des exemples. Pendant le jardinage, on parle allemand. Le dîner est en anglais. La promenade en espagnol. Et le souper en italien. Les enfants ont des cours de physique, de chimie, de diction, de minéralogie, de mécanique. Et elle réussit à les instruire tout en les amusant. Elle fait installer une grande ferme à Saint-Leu. Les enfants y apprennent à traire les vaches, à confectionner des fromages, du pain, à nourrir les animaux, à moudre et à faire la lessive. Alors on devine la stupéfaction de Versailles devant une telle entreprise. Le jeudi 17 novembre 1785, le curé de Saint-Eustache administre les derniers sacrements au duc d'Orléans qui expire le lendemain. Aussitôt, le duc de Chartres se rend à Versailles pour apprendre la nouvelle au roi. Et il quitte son titre de duc de Chartres pour prendre, bien sûr, maintenant le titre de duc d'Orléans. Ce nouveau duc d'Orléans approche de la quarantaine. Il n'a guère changé. Son esprit et sa vanité lui tiennent lieu d'intelligence, son amour des nouveautés dissimule son ignorance, et une crânerie quand même qui ne manque pas d'allure, mais en fait, c'est plutôt un lâche au fond. Au physique, ben il est grand, heureusement parce qu'il commence à s'empâter comme son père. Il essaie de s'étourdir, il cherche surtout l'agitation. Alors il danse avec grâce, il nage fort bien, il est excellent en escrime, et il préfère les exercices du corps à ceux de l'esprit. Il a eu plusieurs maîtresses, mais celle qui compte vraiment, c'est Madame de Buffon. Elle est belle, elle est tout à fait sotte, ce qui ravit le duc d'Orléans, et cependant, elle est très gentille et elle l'adore. Elle parvient même à conquérir Marie-Adélaïde. Au palais royal se trouvent quantité de mécontents et d'ambitieux. Un sentiment les unit tous, la haine de la reine. C'est du palais royal au lendemain de l'affaire du collier, ça je vous le raconterai dans une autre émission, que partent les pamphlets qui traitent la reine de France de voleuse et de catin. Alors Philippe est-il à la tête de cette nouvelle fronde ? Il sourit et laisse faire. Quelqu'un va prendre une place prépondérante auprès de Philippe. Il s'agit de Coderlos de Laclos. Tout le monde sait qu'il est l'auteur des liaisons dangereuses, mais il devient le secrétaire des commandements de Monseigneur le duc d'Orléans. Et il se promet une chose, c'est de travailler cette patte molle de Philippe. Au lieu de prendre la direction du mouvement de cette nouvelle fronde, il laissera les autres agir en son nom. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir à tous.